Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 10 janvier 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. La délégation des talibans a rencontré à Téhéran le ministre iranien des Affaires étrangères. Au Kazakhstan, quelques 5 800 personnes arrêtées pendant les émeutes. L'armée somalienne repousse une attaque des Chebabs, tuant 21 terroristes. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré son homologue du gouvernement intérimaire taliban, Amir Khan Mohtari. La délégation des talibans, conduite par Amir Khan Mohtari, est arrivée à Téhéran samedi dans la nuit. Lors de cette rencontre, le ministre iranien des Affaires étrangères, tout en soulignant que l'histoire a prouvé que le lien entre le peuple iranien et afghan est une sorte de parenté, a déclaré « Les efforts zélés et conjugués du peuple afghan ont montré qu'aucune puissance étrangère ne peut ni occuper ni gouverner l'Afghanistan ». Se référant aux propos positifs des dirigeants talibans concernant la formation d'un gouvernement inclusif, le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité de pas positifs à cet effet. Amir Abdollahian a rappelé l'aide humanitaire de l'Iran au peuple afghan et a ajouté « Tout en poursuivant cette aide, l'Iran utilisera également ses potentiels régionaux pour fournir davantage d'aide afin d'atténuer les problèmes du peuple afghan ». Le très haut diplomate iranien a également condamné les politiques destructives et erronées des États-Unis et de leurs alliés menées en Afghanistan au cours des 20 dernières années pour dire que semer la zizanie et la division entre l'Afghanistan et ses voisins faisaient partie des politiques axiales de Washington dans la région. Le ministre des Affaires étrangères des talibans a qualifié sa visite à Téhéran de positive. « Nous avons eu des échanges positifs avec la partie iranienne relativement au commerce, au pétrole, au transit et à la politique et à la sécurité », a-t-il déclaré à la radio-télévision nationale afghane. « Notre objectif est d'établir de bonnes relations avec la région, en particulier avec les pays voisins ». Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères des talibans a noté que les échanges avaient porté notamment sur le secteur pétrolier, le transit et les questions de sécurité. Le service des relations publiques du ministère iranien des Affaires étrangères a publié un communiqué relatif à cette rencontre. Selon le communiqué, la délégation afghane était composée de ministres et des directeurs de plusieurs ministères afghans. La République islamique d'Iran insiste toujours sur la nécessité de maintenir des relations économiques entre les deux pays dans l'intérêt de la population de notre voisin, plus particulièrement dans la situation actuelle. Quelques 5 800 personnes ont été arrêtées au Kazakhstan pendant les émeutes, dont un certain nombre d'étrangers, a annoncé dimanche le service de presse du président kazakh, Kassym Jomart Tokayev. Quelques 125 affaires pénales ont été engagées. Environ 5 800 personnes ont été déférées à la police, dont un nombre important de ressortissants étrangers, a-t-il déclaré dans un communiqué à l'issue de la réunion de l'état-major opérationnel tenue sous la présidence de M. Tokayev. La situation s'est stabilisée dans toutes les régions du pays. Le fonctionnement des systèmes publics et des systèmes de survie étant rétabli, a-t-il noté. Au cours de la réunion, le président Tokayev a réaffirmé sa détermination à rétablir pleinement l'ordre public et la sécurité dans ce pays d'Asie centrale. De violentes manifestations déclenchées par la hausse des prix du carburant secouent le Kazakhstan depuis plusieurs jours, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. En réponse à ces manifestations, M. Tokayev a accepté la démission du gouvernement mercredi et a demandé l'aide de l'Organisation du traité de sécurité collective pour mettre un terme à l'agitation croissante. Le président a annoncé un jour de deuil national le 10 janvier en mémoire des personnes décédées lors des émeutes. L'armée américaine a construit avec l'aide des forces démocratiques syriennes FTS une raffinerie dans la région abritant les champs pétrolifères de Meidlan, située au nord-est de Rasak. Une source bien informée a suggéré que les semaines et les mois à venir verront une augmentation significative des vols et des pillages de pétrole syrien par les forces d'occupation américaines et les FTS après l'installation de la raffinerie. Les forces d'occupation américaines ont transféré samedi soir et 8 janvier un convoi de 79 véhicules, dont des camions, camions frigorifiques et camions citernes, escortés par 4 véhicules blindés vers le nord de l'Irak par les passages illégaux. Le pétrole syrien est volé par les Américains après l'accord signé en août 2020 entre les FTS et une compagnie pétrolière américaine. Accord que le ministère syrien des Affaires étrangères juge nul et illégal. Les FTS, soutenus par les États-Unis, sont déployés dans l'est et le nord-est de la Syrie. Par ailleurs, une attaque de sabotage a visé le 9 janvier le site de pétrole d'Al-Karata, sous contrôle du gouvernement syrien dans la campagne sud-ouest des Rezors en Syrie. Les saboteurs ont détruit un certain nombre d'oléoducs dans le champ pétrolifère avant de battre en retraite. Les pertes matérielles sont importantes. Cependant, aucune victime n'a été signalée. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, a émis l'hypothèse que l'attaque de sabotage avait été menée par le groupe terroriste Daesh. Les cellules du groupe terroriste Daesh sont actives dans la campagne du sud-ouest des Rezors. Quelques heures après l'attaque de sabotage, 20 frappes aériennes menées par l'armée russe ont touché des cachettes des terroristes daeshistes près de la ville d'Al-Sukhna dans la campagne orientale de Homs, la ville d'Al-Essafa dans la campagne sud de Raqqa et la ville d'Al-Shola dans la campagne occidentale de Deir ez-Zor. Les frappes aériennes pourraient avoir été une réponse à l'attaque. Ce ne serait pas la première attaque de Daesh sur le champ pétrolifère d'Al-Karata. Le 2 décembre, les cellules du groupe ont tendu une embuscade à un bus qui transportait des travailleurs du champ pétrolifère d'Al-Karata. Des ouvriers ont été tués dans l'attaque terroriste. L'insurrection de Daesh dans le centre de la Syrie ne prendra probablement pas fin de si tôt. Le groupe terroriste semble vouloir étendre ses opérations dans la région cette année. L'armée nationale somalienne et les forces de la région de Galmudug ont repoussé dimanche 9 janvier une attaque du groupe terroriste Al-Shabaab, tuant au moins 21 terroristes, a-t-on appris de sources officielles. Une violente confrontation armée a éclaté dans la ville d'Adakibir, dans la région de Galgadout, après une attaque de terroristes Al-Shabaab lourdement armés, selon un responsable militaire et des résidents joints au téléphone par l'agence Anadolu. Les combats ont duré plus d'une heure et des armes lourdes ont été utilisées par les deux parties. Aucune victime civile n'a été signalée. mais les corps des terroristes Shabaab étaient partout, a déclaré un responsable militaire sous couvert d'anonymat. Les terroristes Shabaab ont intensifié leurs attaques dans le centre de la Somalie, ciblant le personnel militaire et attaquant également les villes de la région de Galmudug. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, impose de lourdes sanctions contre le Mali. À l'occasion d'un sommet extraordinaire, il a été décidé de la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali et la suspension de toutes les transactions commerciales. La CEDEAO a décidé dimanche d'imposer des sanctions supplémentaires contre les autorités de la transition au Mali au terme d'un sommet extraordinaire tenu à Accra. La CEDEAO a en effet annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali et la suspension de toutes les transactions commerciales, à l'exception des produits de consommation essentiels, pharmaceutiques, fournitures et équipements médicaux, ainsi que le matériel pour le contrôle de la COVID-19 et des produits pétroliers et d'électricité. À ces mesures s'ajoute le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, la suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO, BIDC et BOAD. La conférence a en outre appelé l'Union africaine, les Nations unies et les autres partenaires à soutenir le processus d'application de ces sanctions et à continuer d'apporter leur soutien à une transition politique acceptable. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Kazakhstan, le contre-coup Russie-Iran-Chine. Quelle est l'importance stratégique du Kazakhstan pour les trois puissances de l'accord de Shanghai que sont la Russie, l'Iran et la Chine? Le Kazakhstan est un pays peu peuplé, mais en raison de ses vastes réserves d'uranium, de pétrole et de gaz, bien qu'il soit enclavé, mais limitrophe des trois superpuissances russes, iraniennes et chinoises, il a toujours été convoité par l'Occident. Les États-Unis et l'Occident ont toujours cherché à être en Asie centrale pour faire pression sur la Russie, l'Iran et la Chine, et cela en dépit d'une fuite humiliante d'Afghanistan. Cela est vrai pour des raisons telles que l'existence de l'importante base spatiale de Baïkonour, qui est la principale base spatiale russe pour l'envoi d'astronautes dans l'espace, ainsi que pour le lancement de satellites, d'engins spatiaux, de sondes et de recherches spatiales. Et ceci alors même que les Occidentaux sont très dépendants des Russes et de la base de Baïkonour pour l'envoi d'astronautes dans l'espace. Baïkonour étant loué par les Russes. La maîtrise des vastes ressources énergétiques inexploitées de la mer Caspienne, vastes réserves, que ce soit celles du pétrole et du gaz, à 264 trillions de pieds cubes et avoir une présence militaire sur cette région, que ce soit par le lancement de gouvernements fantoches ou par l'arrivée de l'OTAN aux portes des puissances situées dans cette région stratégique de l'Asie centrale et du Caucase, cela a toujours été le but des puissances occidentales qui veulent cerner ainsi les trois autres puissances que sont la Chine, la Russie et l'Iran. L'idée serait en effet d'avoir des bases militaires pour tenter d'assiéger ces dernières puissances, le tout dans le sens de la restauration de l'hégémonie de l'Occident dans le monde. La dégradation durant les deux dernières décennies de la place dans le monde de l'Occident, que ce soit en matière politique que militaire ou économique, et l'impossibilité pour les pays occidentaux d'entrer dans une confrontation directe avec les trois puissances de l'accord de Shanghai sont aussi les raisons qui ont motivé les révolutions de velours dans les pays émergents de la région. Ces actions ont vu le renversement du gouvernement autonome et pro-russe en Ukraine avec le recours à la fraude électorale et au lancement d'émeutes, sans oublier le soutien à des émeutiers entraînés, le tout pour faire pression aussi sur les gouvernements opposés à l'hégémonie occidentale. Des scénarios répétés au nom d'un soutien à la démocratie en Géorgie, en Arménie, en Ouzbékistan, au Kirghizistan, et après le renversement de la révolution de Volour kirghize et l'effondrement de la base militaire américaine au Kirghizistan, c'est désormais le tour du Kazakhstan. Le Kazakhstan n'a pas d'importance géopolitique, mais il est extrêmement important en termes de sécurité pour l'Iran, la Russie et la Chine. Parce que le Kazakhstan, en raison de sa géographie fermée et de son climat aride, est un pays qui peut favoriser une montée d'extrémisme pour cause de conditions de vie très difficiles. En effet, le pays est si montagneux que 40% de la population n'a pas accès au gaz de ville. En outre, il y a le problème de l'approvisionnement en eau et le problème des exportations d'énergie de ce pays. Tout cela crée des tensions quotidiennes et peut permettre le recours à l'endoctrinement. À cet égard, il ne faut pas oublier la Turquie, qui, conformément à son rêve de former un grand Turkestan, investit dans ce pays, notamment avec un achat important d'actions de l'aéroport d'Almaty, et a tenté d'atteindre ses sinistres objectifs, qui sont les mêmes objectifs que ceux de l'Occident. L'effondrement du système politique actuel du Kazakhstan sera conforme aux efforts de l'Occident pour avoir une influence à l'Est, en particulier en Russie, en Chine et en Iran. Cependant, les récents événements au Kazakhstan sont complètement planifiés par l'axe occidental sioniste arabe et turc, en particulier ceux de ces derniers jours où plus de 15 soldats kazakhs ont été décapités par des takfiristes de retour de Syrie. La Turquie sera également cette fois-ci la grande perdante avec son jeu dans le camp occidental, comme cela a été le cas pour elle en Syrie, en Irak, dans le Haut-Karabakh, dans la province de Syunik et dans le Caucase.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. Ces derniers jours, des opérations se sont multipliées contre les bases abritant des troupes américaines en Irak, mais aussi en Syrie, dans un contexte de sentiment anti-américain croissant dans ces deux pays. La base américaine d'Ayn al-Assad, mais aussi celle de Victoria, ont été prises ces derniers jours par de multiples requêtes. Il en est de même pour la situation des forces américaines en Syrie où une base américaine a été prise pour cible dans la province de Deir ez-Zor. Selon certaines informations, alors les Américains ont retiré une grande partie de leurs forces de la base à Tanf dans le désert oriental de la Syrie. Rappelez que depuis longtemps, en effet, les populations syriennes, mais aussi irakiennes, ainsi que les dirigeants de ces deux pays exigent le retrait des troupes américaines de leurs pays respectifs. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette multiplication des opérations anti-américaines et bien sûr l'avenir de la présence militaire des Américaines dans ces deux pays. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Des sources officieuses viennent de faire état d'une attaque à la roquette d'envergure contre une base militaire de la coalition dirigée par les États-Unis dans la province syrienne de Deir ez-Zor Est. L'attaque a eu lieu mercredi 5 janvier dans l'après-midi contre la base américaine située près du champ pétrolier Al-Omar. De nombreuses roquettes ont frappé cette base. C'est la troisième fois depuis 24 heures que la base américaine à Al-Omar fait l'objet d'une attaque à la roquette. Ce mercredi matin, la base a été attaquée par trois roquettes. L'attaque a causé un grand incendie dans la base, selon des sources locales. Une source proche de la coalition dirigée par les États-Unis a prétendu que des groupes soutenus par l'Iran sont responsables des attaques contre les bases militaires américaines en Syrie et en Irak. Mardi 4 janvier, dans l'après-midi, la base américaine à Al-Omar a été aussi frappée par plusieurs roquettes, mais l'attaque n'a pas fait de pertes en vie humaine. En Irak voisin, la base aérienne des forces américaines à Ayn al-Assad Ouest, la base américaine Victory Bagdad ont été également attaqués. Des drones ont été utilisés pour attaquer la base Victory. Des sources locales ont rapporté que sur les drones, la phrase « opération pour venger » les commandants avaient été libellés. Des sources irakiennes rapportent que mercredi 5 janvier dans la soirée, au moins un convoi logistique de l'armée américaine a été attaqué à Samava Sud. L'agence Aberdeen News a rapporté qu'un convoi de l'armée américaine a été attaqué deux fois dans le sud du pays, mais le correspondant de la chaîne Al-Mayadeen a rapporté qu'il s'agissait de deux attaques contre deux convois distincts de l'armée américaine. Des sources locales ont annoncé qu'un groupe appelé Qasem al-Jabarin a revendiqué la responsabilité des deux attaques. Aucun rapport n'a encore divulgué les pertes et les dégâts causés par ces frappes. Après la résolution approuvée par le Parlement irakien pour exiger le retrait des forces militaires étrangères, l'armée américaine insiste à maintenir ses soldats en Irak, d'où des attaques successives contre les bases et les convois de l'armée américaine. Mercredi 5 janvier, l'agence Aberdeen News a rapporté qu'un autre convoi logistique de l'armée américaine a été attaqué dans la province irakienne de Bab el-Centre. Le groupe appelé Qasem al-Jabarin a revendiqué la responsabilité de cette attaque. Aucun rapport n'a encore divulgué les pertes et les dégâts causés par ces frappes. Mercredi 5 janvier, dans la soirée, une attaque à la roquette a été menée contre la base aérienne des militaires américains à Ain al-Assad dans la province irakienne d'Al-Anbar, ouest. L'agence Aberdeen News rapporte que 12 roquettes de 107 mm ont été tirées sur la base. Le système de DCA de la base a été activé après l'attaque. Ce rapport précise que les roquettes ont été tirées depuis le village d'Al-Pastamiya, à 25 km de la ville de Hit. La coalition dirigée par les États-Unis a reconnu le tir de 5 roquettes contre la base d'Ain al-Assad.
Autour au plateau de l'émission du débat, merci de votre fidélité. Nous allons tout de suite commencer cette émission avec Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, qui est en ligne avec nous depuis Toulouse. Monsieur le professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, M. Codamandé. Bonjour à tous vos auditeurs et bien sûr à votre invité.
On s'y attendait peut-être, Monsieur le professeur. Des opérations anti-américaines se multiplient en effet en Irak et en Syrie, notamment en Irak où, en principe et selon l'accord Bagdad de Washington, les troupes américaines auraient dû en effet se retirer de ce pays le 31 décembre. Des attaques, des frappes aux missiles, aux drones, à l'explosif, continuent de viser non seulement les bases américaines, mais aussi les convois logistiques américains en Irak. Que signifie cette augmentation, cette multiplication des opérations anti-américaines en Irak, mais aussi en Syrie?
Eh bien, elles ont, deux aspects complémentaires. Le premier, bien sûr, qui saute aux yeux, est celui d'insister sur ou de concrétiser, disons, la décision du Parlement irakien de la fin de l'occupation américaine. Et le deuxième aspect, c'est celui également de fournir aux Américains, est-ce une intention directe ou indirecte, ça l'histoire le dira, l'occasion aussi de dire que la situation est intenable. Je crois que c'est une perche, en fait, qui est tendue non seulement, c'est une résistance, bien sûr, mais une perche qui est tendue en même temps, politiquement, je veux dire, aux Américains, disant que devant leur opinion publique et même, disons, devant, disons, les stratèges, il soit dit que la situation vraiment ne mérite pas que en Irak ne mérite pas que le maintien de nos troupes, cela n'a plus aucune utilité stratégique et peut-être même énormément au contraire de conséquences néfastes du point de vue politique. Il y a donc tous ces aspects-là. Votre collègue, si je puis me permettre, Monsieur Malpino, vous savez dont le nom est si connu chez nous, dans le Figaro, fait remarquer qu'il n'y a pas de perte américaine, tout au moins avouée, voyez, dans ces attaques. Alors, elles sont évidemment non liées à l'Irak, bien sûr, surtout à la Syrie ouest, si je puis dire. Je crois que ces attaques auront une conséquence politique et diplomatique. Je pense qu'elles peuvent être même, une carte entre les mains de ceux qui, aux États-Unis, veulent réorganiser la stratégie au Proche-Orient. C'est-à-dire dire que la lutte antiterroriste, qui était le motif premier, voyez-vous, de cette chose-là, de leur présence, n'a plus de sens. Et d'autre part, évidemment, il y a des groupes aussi aux États-Unis qui prennent ça à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils voient une occasion d'attaque contre l'Iran, en disant que ce sont des groupes inspirés par l'Iran, etc., pour dire qu'il ne s'agit pas de désirs nationaux, voyez-vous, de vœux populaires. Il s'agit là d'un vœu populaire, bien sûr, puisque il faut le rappeler, vous le dites, il faut le rappeler toujours, que c'est une décision, en tout cas en Irak, du Parlement, qui fait que les États-Unis ne devraient plus pouvoir rester, ni même sous une forme de coopération militaire, voyez, qui a été avancée, qui serait un déguisement. Je crois que le sens est assez heureux de ces attaques, surtout si elles sont sans perte humaine, seulement matérielle. Elles peuvent être un argument dans le sens de la résistance, bien sûr, le renforcement, bien sûr, ça c'est évident, pas la peine de le dire. Mais en même temps, dans le camp américain, cela peut être utilisé, disons, tantôt, pour certains, comme un argument anti-iranien, mais d'autre part, à mon avis, cela commence à être, sinon majoritaire, du moins important, dans le camp de ceux qui veulent réorganiser une stratégie. Mais là, nous quittons le Proche-Orient, nous quittons l'Asie pour l'Europe. C'est-à-dire que, je veux dire ça en un seul mot, ce que j'abondais, c'est-à-dire que les préoccupations américaines en Europe, en particulier en Ukraine, peuvent changer évidemment aussi leur comportement, donner un argument à ceux qui veulent se retirer, disons, de positions inutiles en Irak et en Syrie, pour pouvoir se concentrer naturellement en Europe.
Merci infiniment pour ces éclairages. Monsieur le professeur, restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Paris Monsieur Habib Tava, écrivain et journaliste. Monsieur Tava, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Merci de me recevoir. Je vous remercie aussi de votre intérêt. Écoutez, j'ai écouté notre collègue parler, et il y a un point qui me frappe dans la situation actuelle. C'est que si nous regardons Daesh, au moment où il a essayé de briser les frontières entre l'Irak et la Syrie et constituer un État qui soit à cheval sur les deux pays, sur le nord des deux pays, eh bien aujourd'hui, les Américains reprennent exactement la même stratégie, ce qui prouve bien que Daesh était une de leurs créations, et essayent aussi de jouer sur le nord de la Syrie et le nord de l'Irak en sautant de l'un à l'autre, en justifiant ainsi une politique où si les uns font pression, les autres feront moins pression, et on va et on vient. Mais dans les deux cas, nous avons aussi bien les autorités irakiennes qui ont voté au Parlement le retrait de l'armée américaine, et en même temps les Syriens qui ont toujours récusé la présence américaine à l'est de l'Euphrate. Dans ces deux cas, nous avons des États qui s'opposent à la présence des États-Unis, lesquels essayent de se maintenir en dépit de tout. Alors nous avons d'une part le début des attaques qui se passent en Irak, où le Hach al-Shaabi avait déclaré en particulier qu'après le 1er janvier, les États-Unis, les forces américaines n'auraient plus le droit de présence en Irak, et ce qui se passe, simplement la concrétisation de ce rejet. Et deuxièmement, le début de résistance que l'on voit aussi apparaître dans l'Euphrate, dans la région de l'Euphrate, de la part des Syriens contre la présence américaine. Donc il y a une dualité à la fois de l'opposition des deux pays et à la fois des Américains qui essayent de jouer sur les deux tableaux. Je ne pense pas que cette histoire puisse durer, puisque d'une manière quelconque, il faudra bien que les Américains se trouvent des justifications. Et aujourd'hui, il n'y a aucune justification à leur présence. Et c'est pour ça qu'ils essaient de réanimer Daesh, que ce soit en Irak ou en Syrie. Donc là, voilà, ce double balancement est clair à voir.
Merci pour ces précisions, M. Tava, restez avec nous. Monsieur d'Ortiguier, alors, il paraît qu'un an après l'assassinat par les États-Unis du général Soleimani et d'Abu Mahdi al-Mohandes, Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est une exigence nationale, le retrait des troupes américaines. Il paraît que désormais, alors, on est entré dans une nouvelle phase, celle de la déclaration de guerre directe, en effet, aux troupes américaines aux États-Unis. Quelles seront les conséquences géostratégiques et géopolitiques de cette nouvelle phase, de cette déclaration de guerre, non seulement en effet de la résistance, mais aussi en effet des populations irakiennes et syriennes, non seulement dans ces deux pays, mais aussi au niveau régional?
Eh bien, de même que les Américains se sont retirés d'Afghanistan, on ne peut pas, disons, prévoir autre chose qu'un retrait des Américains de la Syrie et de l'Irak. D'abord, pour la Syrie et l'Irak, il faut noter que leur présence maintenant est infime. Donc il s'agit finalement d'une présence, je dirais, symbolique. On parle de quelques milliers d'hommes. Il faudrait remarquer à cet égard, dans la suite des jours à venir, dans la suite des jours, là, que si, les opérations terroristes, proprement dites, des organisations qui se revendiquaient de Daesh, d'Al-Nusra, etc., vont continuer. Je pense que nous allons assister à une diminution, à un affaiblissement de ces organisations, parce qu'elles ne seront plus, disons, couvertes. Je n'ose pas dire nourries, mais disons, elles ne seront plus supportées, disons, par des groupes soit officiels, soit officieux, venant des États-Unis, entre autres, par exemple. Alors, je crois que les Américains me font penser, leur situation me fait penser à celle qui a eu lieu lors de l'assassinat du général Soleimani. Je me souviens très bien, je l'avais suivi ici à Téhéran, les ripostes, disons, qui ont touché la base américaine, ont été des ripostes, disons, qui ont fait, je crois, peu de victimes, sinon même quasiment pas de victimes. Alors, je me demande en quelle mesure, disons, les Américains ont été libres de leur mouvement, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont vraiment décidé la mort du général Soleimani de leur propre liberté, par leur propre initiative, ou est-ce qu'elle leur a été imposée? C'est ce que tentait de dire autre jour M. Trump. Je ne sais pas si cette justification est tout à fait sera prise en compte sérieusement par l'histoire, mais je dois quand même dire que ou insister sur ce fait qu'il y a, disons, un élargissement de la stratégie américaine, c'est-à-dire ce qui était fixé sur le Proche-Orient maintenant, ou fixé même contre l'Iran, me semble devoir évoluer ou prendre une autre forme, disons, évoluer d'ailleurs favorablement pour l'Iran et pour les peuples du Proche-Orient, à cause du conflit, c'est du conflit ou de la rivalité plus importante, plus accentuée, qui se fait avec la Russie et la Chine. Je crois que ceci, disons, joint à la résistance naturellement, fait que nous assisterons peut-être à un déplacement, je ne dis pas des conflits, mais un déplacement de la tension internationale dans ce sens. Et donc, ceci est favorable, bien sûr, aux intérêts nationaux de la Syrie et de l'Irak, bien sûr. Il s'agit là, de toute façon, d'une victoire de la résistance, d'une victoire, bien sûr, indéniable, qui s'est produite, disons, au cours du temps. C'est quand même, n'oublions pas que cette lutte contre le terrorisme, et cela a d'ailleurs un côté assez étonnant, a pris quand même une dizaine d'années, alors que, même avec l'appui russe, par exemple, on pouvait imaginer que cette subversion terroriste armée, bien sûr, par l'Occident, aurait pu, disons, ne pas durer autant. Alors, est-ce qu'il y a derrière des intérêts stratégiques très importants à l'échelle mondiale, sans avoir l'ambition ou la prétention de les exprimer, enfin de les énumérer? Je crois qu'il y a effectivement une augmentation de la tension sur d'autres champs de bataille, vous voyez, que je pense européens malheureusement, qui font que la présence américaine, et surtout la présence physique américaine, disons la présence directe de l'armée américaine, ne me semble plus justifiée, et ne semble plus justifiée, à mon avis, aux gens du Pentagone. Je crois que de ce point de vue, il faut quand même revenir à ce qui a été le fait le plus extraordinaire, c'est quand même le départ précipité de l'Afghanistan. Bon, on a bon donner des explications, elles ne sont pas à la hauteur quand même de l'acte. S'agit-il d'une défaite militaire ? Oui, en un sens, mais il ne faut pas non plus exagérer. Il y a quand même, une pensée de derrière la tête du côté des Américains qui est importante, de même qu'il y a également une pensée de derrière la tête, si je puis dire, c'est-à-dire toutes les puissances. Je veux dire, les grandes puissances, ce n'est plus l'Europe, malheureusement. C'est la Chine, la Russie. Bon, je crois qu'il faut voir plus loin, voyez-vous, et que les champs de bataille actuellement en Syrie et en Irak, et en tout cas considérer qu'il y a une union quand même politique en Syrie et en Irak autour de ce thème de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Et de ce côté-là, bien sûr, même au bout de 10 ans et même plus, disons, cela a été une grande victoire de ces peuples qui avaient été, il faut le dire, littéralement écrasés.
Merci encore pour ces précisions, monsieur le professeur. Monsieur Tabar, alors selon de nombreux analystes, c'est au cours de l'année dernière, des évolutions se sont considérablement accélérées au détriment des États-Unis et en faveur de l'axe du front de la résistance. Dans quelle mesure, alors, ce changement de donne, si on peut utiliser ce terme, pourra en effet modifier le paysage géopolitique dans la région et aboutir à un retrait, en effet, à une expulsion humiliante des troupes américaines comme ce qui s'est passé en Afghanistan?
Malheureusement, je ne suis pas tout à fait de l'avis de M. Dorvilliers, parce que je veux bien que les troupes se retirent des zones habitées, par exemple à l'est de la Syrie, ou bien au nord de l'Irak, ou bien même dans le reste de l'Irak, c'est tout à fait possible. Mais il y a un point terrible, c'est la présence de la base de Tanf, qui se trouve en plein désert syrien, et à la limite des trois pays que sont la Jordanie, l'Irak et la Syrie. Et c'est une base qui a créé une zone d'exclusion de 50 km autour d'elle, où les djihadistes vont se cacher, où les Américains entretiennent une base militaire avec les Britanniques d'ailleurs, et d'où ils organisent d'une part des attaques directes contre la Syrie et des refuges pour les takfiristes de Daesh. Donc là, je ne vois pas très bien qu'est-ce qui pourrait éliminer les Américains de cet endroit. Et c'est un point, un abcès de fixation très grave que je pense M. Derouy semble oublier. Je veux bien que dans les régions habitées, les régions habitées de l'Irak, les régions habitées de la Syrie, ils puissent à terme y avoir un retrait américain. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y aura le retrait de cette région, qui est une région très grave parce qu'elle est à la frontière de trois pays et très solidement établie et une zone à partir de laquelle Israël a d'ailleurs mené des opérations contre la Syrie. Et donc je suis inquiet sur cet aspect technique des choses.
Et en ce qui concerne M. Tabar, l'assassinat, en effet, du général Soleimani, selon de nombreux analystes, justement, cet assassinat, ce crime a eu des effets inverses pour les États-Unis. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Ce que vous dites est évident, c'est pour ça que je vous ai parlé de retrait des régions habitées. Des régions habitées, que ce soit en Syrie ou en Irak, c'est possible que les Américains se retirent. Est-ce qu'ils vont se retirer de cette zone désertique qui est située entre les trois pays et qui peut causer problème? Moi, c'est ça qui me préoccupe. Parce que jusqu'ici, aussi bien les Russes que les Syriens ont essayé de faire des avances pour déloger les Américains de là et ça n'a pas réussi. En plus, ils ont un réservoir de réfugiés qu'ils utilisent comme hommes de main ou bien de gens pour faire des opérations kamikazes, etc. La situation de Tanf, je pense, est très grave et il faut y penser.
Est-ce que cela signifie que les États-Unis, d'une part, et d'autre part, alors la Syrie, l'axe de la résistance et la Russie pourraient en effet entrer dans une guerre ouverte et directe?
Non, les Russes n'ont jamais voulu faire de guerre ouverte. L'axe de la résistance, effectivement, est en train de préparer des attaques contre les Américains. Ça, c'est indiscutable. Mais les Syriens, malheureusement, sont un peu tenus par les Russes et ne peuvent pas aller trop de l'avant. En revanche, bon, effectivement, pour les Irakiens, je pense qu'il y aura peut-être une libération du territoire. Mais je vous dis, je suis inquiet pour cette région de Tanf dont on parle fort peu, mais qui, stratégiquement, est un, comment vous dire, un sort de poison qui est installé entre les trois pays et qui, tant que ce ne sera pas éradiqué, c'est une verrue. Voilà comment je vois la chose. Bah, il faut être objectif aussi.
Habib Tava, journaliste depuis Paris, monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse. Merci infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à notre émission. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.
Déchoda ou la recherche de la perfection. Ali Akbar Déchoda, 1879-1956, est l'une des figures remarquables de la culture, de la littérature ainsi que de la science iranienne au XXe siècle. Il est l'auteur du célèbre dictionnaire persan qui porte son nom, Déchoda, et fait partie des œuvres culturelles importantes réalisées en langue persane. Poète et linguiste renommé, il s'impliqua également dans des activités politiques. Dès le commencement de la révolution constitutionnelle, il écrivit notamment des articles qu'il signait d'Ahou ou même de son propre nom. En se rangeant du côté des constitutionnalistes, il s'imposa au monarque de son époque, Mohammad Ali Shah Qajar, et faillit être exécuté comme son collègue Mirza Jahangir Khan Sure Esrafil. Déchoda raconte qu'un jour, enfant, au moment de s'endormir, il se mit soudain à penser à un proverbe que sa mère avait l'habitude de répéter. À l'époque, il ne savait pas grand-chose des proverbes et ne connaissait pas le nom donné à ces phrases, à la tournure particulière que l'on utilise pour s'exprimer, mais il comprenait quand même que ces phrases ne ressemblaient pas aux autres. Il s'était donc levé et avait consigné une dizaine d'expressions semblables. On peut imaginer que ce fut là le premier effort de Déchoda dans le rassemblement des milliers de proverbes et expressions qui constituent son Amsal al-Hikam. Quand il débute ses recherches, il n'a pas l'intention de rédiger deux livres distincts et ne glane les proverbes que pour les rajouter à ce qu'il pensait être son unique livre, l'Encyclopédie. Amsal al-Hikam est publié en 4 volumes entre les années 1929 et 1932. L'immense bibliographie citée par Déchoda et les sources qu'il cite ne font que souligner l'ardeur et la minutie extraordinaire qu'il a mis 50 ans durant à fignoler son encyclopédie et son Amsal al-Hikam. En examinant en détail cette bibliographie, on remarque qu'il y a très peu de sources auxquelles il ne se soit pas référé. Amsal al-Hikam contient 30 000 proverbes et plus de 10 000 expressions persanes et plus de 12 000 poètes ou écrivains y sont cités. Ce livre fut tiré la première fois à 1000 exemplaires, dont 800 appartenaient en tant que droit d'auteur à Déroda, qui les offrit à une organisation caritative. Cela est l'une des autres grandeurs d'âme de ce maître de la littérature persane qui ne demanda et n'accepta jamais d'être payé pour le travail qu'il fournit sa vie durant. Les grandes encyclopédies de Déroda, ou plus simplement Dictionnaire Déroda, est un immense et complet glossaire comprenant les mots, les expressions et les noms propres de la langue persane. Peut-être choisit-il pour son œuvre le titre de l'Oratnamé, le livre des mots, par référence au poète persan du Xe siècle, Assadi Toussi, qui avait également choisi ce titre pour la grande encyclopédie qu'il commença à décrire, mais que la mort ne lui permit pas de terminer. Déroda pensait qu'il y a des milliers de mots en persan, oralement transmis de génération en génération, qui disparaissent à toute vitesse et qu'il fallait un héros pour les transcrire et les sauver de l'oubli. Il décida d'être lui-même ce héros. Pourtant, après avoir fini son encyclopédie, il estima qu'il n'avait transcrit au maximum qu'un tiers des mots existants en langue persane. Pendant ses longues années de recherche, Déroda se référa continuellement aux plus prestigieux livres de la riche littérature persane. Ayant dès auparavant reçu une éducation littéraire très soignée, il sut toujours reconnaître les faiblesses et les forces de chaque œuvre et de chaque mot qu'il racontait. Ainsi, il les évita ou, au contraire, les mit en valeur dans son encyclopédie. La langue persane n'est pas une langue fermée et des milliers de mots arabes, turcs, indiens, anglais, français, russes et mongols y ont pénétré au fil des siècles et des invasions diverses. Déroda, le grand persanologue, maîtrisait également à la perfection plusieurs langues étrangères, dont le français, et c'est grâce à cette connaissance qu'il sut très bien expliquer et codifier les mots étrangers définitivement entrés dans le persan. Le premier tome des 222 volumes de l'encyclopédie Déroda parut en 1940 et il fallut attendre 33 ans pour que la publication de la première édition prenne fin. À cette époque, et pour plusieurs décennies encore, peu de gens se sont intéressés à cette œuvre grandiose. Mais finalement, en 1945, une lettre du Premier ministre Mossadegh à l'Assemblée fit bouger les choses et une commission parlementaire fut immédiatement chargée de la fondation du comité de l'élaboration de l'encyclopédie Déroda et Déroda lui-même put désormais compter sur des collaborateurs prestigieux dont le plus fidèle fut Mohammad Moïn, lui-même grand littéraire iranien. Déroda poète. Le divan de Déroda fut publié pour la première fois de son vivant avec l'aide d'Abdelrafar Tahouri, le directeur des éditions Tahouri, et une seconde fois avec l'aide du grand Moïn en 1954. Ses poèmes avaient déjà été publiés dans le journal Sure Esrafil et dans son livre Amsoluheka. Pourtant, peu de gens savent que Déroda était également poète. Lui-même disait toujours faire des rimes pour le plaisir et ne se considéra jamais comme un poète. Beaucoup de ses poèmes ont le même ton que ses charand-parand et portent distinctement la marque de son regard acerbe et très critique envers la société de son époque et il partage les mêmes sujets de prédilection poétique que les grands poètes patriotes de la Révolution constitutionnelle. Déroda peut être classé dans la catégorie des défenseurs acharnés de la métrique classique. Malgré cela, il n'a pas hésité à innover et certains le considèrent comme le premier novateur de la poésie moderne. Cela pour trois raisons. Premièrement, il usa de la métrique classique, mais ses thèmes étaient nouveaux et se distinguaient même des thèmes en vigueur chez les poètes patriotes. Deuxièmement, il fit entrer pour la première fois la langue populaire dans la poésie. Troisièmement, il a, malgré le classicisme de sa poésie, légèrement modifié la métrique. Il faut pourtant signaler Caravan Sales, critique et poète, ne juge pas ces modifications suffisantes pour pouvoir considérer Déroda comme le père de la poésie persane moderne. Parmi les autres ouvrages de Déroda, on peut citer la traduction jamais publiée de la Considération sur les causes de la grandeur des Romains et leur cadence de Montesquieu, un dictionnaire français persan jamais publié, une bibliographie du savant Abu Reyhan Biruni, des annotations et corrections faites sur plus d'une quinzaine de recueils de poésie ancienne ou contemporaine. Mais la plus grande œuvre de Déroda reste l'immense encyclopédie sur laquelle il travailla pendant plus de 50 ans. En 1953, après le coup d'État américain du 19 août, Déroda, alors âgé de 74 ans, fut appelé et très brutalement interrogé par la police politique. Heureusement, son interrogatoire ne dura pas très longtemps et quelques heures plus tard, le fluet septuagénaire, soigneusement tabassé, fut relâché et évanoui, ramené à sa demeure par les policiers. Cette épreuve physique était plus que n'en pouvait supporter Déroda, qui ne s'en remit jamais. Il continua pourtant ses recherches, mais ses forces déclinèrent très rapidement et il mourut 2 ans plus tard, en février 1955.
Thank you.